Paul.
Hip hop. Ciao, ciao, much up.
Nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca.
Du 8 au 11 mars 2018 se déroulera la 13e édition du Festival de Castelier, un événement unique à Montréal voué aux arts de la marionnette. 4 jours incroyables pour découvrir les créations des meilleurs marionnettistes d'ici et d'ailleurs. Au programme cette année, 12 spectacles de marionnettes pour adultes et pour enfants et de nombreuses activités gratuites. Visitez le site festival.castelier.ca pour tout connaître de la programmation. Le Festival de Castelier du 8 au 11 mars.
Le concours vitrine de toutes les musiques vous présente en préliminaire ses 21 oiseaux rares. Du 19 février au 3 avril, c'est au Francouverte que ça se passe. Faites le plein de nouveautés musicales au sympathique Lion d'Or et découvrez 3 artistes et formations par soirée ainsi qu'un invité surprise. Soyez au rendez-vous afin de contribuer au choix des 9 demi-finalistes. Pour tout savoir, visitez francouverte.com. Les Francouvertes, une présentation de SiriusXM.
Les Productions Nuit d'Afrique présentent la 12e édition des Silly d'Or de la musique du monde. Les Silly d'Or, une distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes de musique du monde. Dans le cadre de ces concerts vitrines gratuits, venez voter pour vos artistes coup de cœur tous les mardis et mercredis jusqu'au 11 avril au Club Balatou. Les Silly d'Or, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, www.sillydor.com.
Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Puccino et vous êtes sur les ondes de choc. C'est pour ça que ça bouge comme ça.
Croyez-vous que les médias ont une part de responsabilité dans votre défaite?
Pas du tout. Les médias ont toujours raison. Les médias ont toujours raison.
Bonsoir à toutes nos auditrices. Bienvenue à la Faute Média sur les ondes de choc.ca. On vient de prendre le studio. Il y avait un gros party. On se sent quasiment mal de prendre la place pour venir vous parler de politique parce que c'était une émission avec des DJ invités. Il y avait comme 25 personnes dans le studio. Maintenant, ce soir, on est en équipe réduite. Nous sommes 3 et nous allons vous parler de plusieurs sujets qui touchent les femmes parce que hier était la journée internationale du droit des femmes. Donc, on s'est dit qu'on allait faire une émission engagée comme toujours, engagée une émission féministe. On a autour de la table Marie Chabot-Jensen, Camila Rodriguez-Ca et moi-même, Emilien Roscanou, à l'animation. Équipe réduite, c'est le cas de le dire. C'est ce que Marie vient de me souffler à l'oreille. Disclaimer, je ne suis pas une femme. Donc, maintenant que vous connaissez mon biais, on est au moins en majorité des femmes aujourd'hui autour de la table. On va faire un petit tour de table, je pense, sur certains enjeux qui ont retenu notre attention dans l'actualité. On vous a parlé assez longtemps des Jeux olympiques à la dernière émission, puis comme le sport, il y a personne d'entre nous qui sait c'est quoi, on va pas vous en reparler ce soir.
Peut-être plus jamais.
Ou peut-être plus jamais. Moi, je vais commencer, je vais ouvrir le bal avec une citation du très grand intellectuel Éric Duhaime qui anime une émission de radio à Québec. Ce très subtil personnage disait « En cette journée des femmes, je vous souhaite, mesdames, d'avoir le courage de réclamer l'abolition d'une telle journée, de même que le Conseil du statut de la femme ou le ministère de la condition féminine ou tous les autres organismes et événements discriminatoires. » Donc, pour Éric Duhaime, l'égalité des hommes et des femmes est chose faite. Voilà. Il faudrait abolir tous les organismes qui défendent leurs droits parce que les femmes sont maintenant les égales des hommes et ne subissent plus de discrimination. Mais Éric Duhaime avait écrit un livre très intéressant qui s'appelait...
Dernier gay?
Quelque chose, je ne sais pas trop quoi, ou Le dernier gay, mais en gros...
La fin de l'homosexualité et le dernier gay.
C'est ça. Donc, dans le fond, en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'Éric Duhaime est contre tous les lobbies de gauche, de gauche bien pensante de la clique du plateau, les lobbies gays, les lobbies de femmes, les lobbies de toutes les minorités. En fait, ça devrait pas exister.
Les femmes, quelle minorité?
Surtout que je pense que une majorité de femmes,
oui,
y a sur la Terre, ouais, 51%, ouais, quelque chose comme ça. Donc,
dans le fond, tu sais, pour prendre sa défense, c'est parce que lui, il vit vraiment dans un monde, justement, ce monde là de la naïveté quand même, peut-être si on prenait pas en compte la dernière partie sur la partie discriminatoire, on pourrait quand même en dire que, qu'est-ce qui nous suit vraiment, c'est de plus avoir besoin d'organismes qui défendent le droit des femmes, parce que finalement notre droit sera assuré. Donc finalement, on peut se souhaiter un jour de ne plus besoin d'avoir besoin de ces institutions là sauf que faudra pas nécessairement croire que le tout est discriminatoire alors qu'on essaie de discriminer contre une discrimination.
En effet, je pense que c'est une analyse un peu trop subtile que tu fais du personnage. Je pense pas que ses intentions soient ces dernières. Mais bon, on peut le souhaiter, du moins pour l'avenir. Marie, tu voulais nous parler d'un podcast que tu écoutais cette semaine, si je me trompe. Est-ce que je me trompe?
Tu te trompes un petit peu, mais pas beaucoup. En fait, c'est que le podcast a été un peu la source pour la nouvelle dont je voulais vous parler. C'est que j'écoute souvent, en fait, un podcast qui s'appelle The Kicker par le Columbia Journalism Review.
Ben, c'est juste qu'on s'entend un petit peu moins dans
ouais,
les écouteurs.
Ouais, c'est ça, j'avais peur
pendant
un certain
mais...
moment de temps.
Non, enchaîner.
Ah, OK. Désolée, j'avais peur qu'on soit coupé. J'écoute souvent, en fait, le podcast qui s'appelle The Kicker par le Columbia Journalism Review, qui est dans le fond un organisme qui se penche justement sur l'analyse des médias, particulièrement aux États-Unis. Et ils avaient un peu en entrevue quelqu'un du New York Times qui a révélé, en fait... une anomalie. Je pense même, en fait, elle a été révélée aussi dans The Daily, qui était un des podcasts les plus célèbres maintenant, les plus connus aux États-Unis, qui est fait par le New York Times. Et qu'est-ce qu'ils ont révélé, en fait? C'est un grand scandale à travers lequel des médias comme The Inquirer pouvaient acheter, finalement, des histoires de scandales sexuels qui mettaient en scène des personnes haut placées, comme par exemple Harvey Weinstein ou Bill Cosby, ou même notre célèbre Donald Trump. Et comment le principe, c'est que les personnes, finalement, allaient voir ce média-là, qui est aux États-Unis, quand même réputé pour, justement, vendre des scandales dans ses pages, un petit peu justement la presse people. Et les personnes allaient voir pour dire « Ah, cette personne-là m'a agressé, j'aimerais ça qu'on puisse le dénoncer dans vos pages. » Et à ce moment-là, le média allait acheter l'histoire et allait dire à la source « Tu n'as pas le droit de m'entendre l'histoire à un autre journal, on a l'exclusivité. » Et à ce moment-là, il avait le droit sur l'histoire et il l'utilisait en fait pour mettre au rancard cette histoire-là, vu que le propriétaire de The Inquirer était ami avec ces personnalités-là,
ah,
dont
ouais.
Harvey Weinstein, Donald Trump, Bill Cosby. Et en échange, ils achetaient un petit peu les sources. Par exemple, Bill Cosby a comme donné en échange une entrevue exclusive aux médias au lieu de donner justement suite aux allégations qui avaient été faites. Donc finalement, c'est un grand scandale qui dans l'industrie médiatique pour voir comment ça a été enterré un peu dans les dernières années, les scandales d'allégations sexuelles contre des hauts placés de l'industrie d'Hollywood, entre autres.
C'est pervertir complètement le scoop.
Oui, puis en fait, c'est juste comme... C'est pas simplement de ne pas agir dans un cas, par exemple, d'allégation sexuelle, c'est d'agir contre. En fait, c'est de rendre illégal, après ça, la personne de pouvoir dénoncer de quelconque façon. C'est de mettre au silence, finalement, des victimes. Donc, on peut... en fait, on peut dire carrément que c'est des collaborateurs à l'agression, finalement, que ces personnes-là ont subi.
Oui, ben c'est comme les ententes de confidentialité aussi, souvent, là, entre les victimes et les agresseurs. Donc, on peut jamais savoir ce qui s'est dit, ce qui s'est fait, les ententes hors cours, tout ça.
Exactement, parce que souvent, finalement, c'est des personnes qui sont en autorité, des personnes qui ont des moyens financiers et qui peuvent se permettre de payer la victime. Puis on pourrait se demander pourquoi, en tant que telle, une victime voudrait vendre son histoire contre l'argent, tout ça. Mais tu sais, souvent, c'est que la personne va avoir l'occasion... La personne qui peut acheter l'entente va avoir les moyens pour pouvoir engager, par exemple, des détectives pour payer justement quelqu'un à aller fouiner dans la vie privée de la présumée victime, puis de dire « Veux-tu vraiment qu'on devienne des ennemis? Veux-tu vraiment que je révèle à la presse l'ensemble de choses sur toi que tu serais peut-être pas heureuse qu'il devienne public, en fait? » Donc, à ce moment-là, on peut voir que le côté du pouvoir que ces personnes-là ont fait que la balance du pouvoir est pas juste dans la relation qu'on a directement dans l'agression, mais est aussi dans le fait d'être capable de s'assumer et de pouvoir en parler. Donc, ouais.
Après
c'est une grosse épine dans le pied de ce média-là, cette semaine.
Oui, après les poursuites Bayon, les scoops Bayon.
Exact.
D'ailleurs, petit aparté, Donald Trump, il y a une ancienne actrice porno qui
Stormy
a engagé
Daniels.
Des avocats, c'est ça, pour réouvrir l'entente de confidentialité parce qu'il y a eu une histoire entre elle et Donald Trump, sauf que ça s'est terminé hors cours, il y a eu une entente de confidentialité, donc on peut pas le savoir. Puis là,
on peut pas le savoir, mais en fait,
il y a des intérêts financiers qui veulent que ça se sache, je ne sais pas.
Mais en fait, par rapport à cette histoire-là, c'est un peu le suivi de l'histoire dans laquelle je te parlais, parce qu'une des anciennes amants, en fait, ancienne maîtresse de Donald Trump, qui a justement été prise par le scoop Bayon, comme tu dis, qui a été acheté un peu par The Inquirer, lui donnant une chronique, lui donnant de l'argent directement, le média de le payer, puis après ça a été remboursé par la campagne. Ou a été même, on sait pas encore comment ça a été fait, s'il y a eu du remboursement ou quoi que ce soit.
De l'argent qui vient de Russie, je sais pas.
Ou quoi que ce soit. Et la deuxième personne que tu as, Stormy Daniels, qui est une actrice porno, si je me trompe pas, elle, en fait, elle a eu une relation brève avec Donald Trump, mais c'est juste qu'à la veille des élections, elle s'est rendue compte qu'elle pourrait faire de l'argent quand même avec le fait de pouvoir révéler ce scandale-là. Donc, pour la faire taire, c'est directement l'avocat de Donald Trump qui l'a contacté. Et là, elle a essayé de vendre son histoire, puis elle a essayé de vendre son histoire, puis de mettre la pression justement pour avoir l'argent qu'il lui devait à travers ce deal-là. Et là, en ce moment, c'est qu'elle avoir plus d'opportunités pour elle de faire de l'argent à aller sur la place publique, entre autres, par rapport à leur relation. Donc là, il faut quand même clarifier que c'est pas un cas d'agression. Comme dans les autres cas desquels on parle. C'est vraiment...
Mais c'est quand même entremêlé à cette histoire-là.
Ouais. Mais c'est entremêlé à l'histoire de comment on fait pour, cacher la vérité. Mais il faudrait pas qu'on le confonde. On parle vraiment juste d'un scandale qui est un peu embarrassant pour le président parce que c'est une affaire ex-conjugale et tout. Donc là, à ce moment-ci, qu'est-ce qui arrive? C'est que le contrat, justement, qui était là pour dire, tu n'as pas le droit de révéler les faits, a été signé par la Stormy Daniels, par son avocat, par l'avocat Donald Trump, mais pas par Donald Trump. Donc, là, sont en cours présentement pour voir si le document est valide ou non devant les tribunaux.
Intéressant à suivre. Camilla, est-ce que tu avais un sujet qui...
Pour le tour de table?
Pour le tour de table.
Ben oui, je voulais parler un peu de la Journée internationale de la femme, des femmes ou du droit des femmes. On en a beaucoup parlé, je trouve, cette année. À chaque année, on dirait qu'on mentionne de plus en plus que c'est pas la Journée internationale de la femme parce qu'il n'y a pas juste une femme sur Terre puis que les conditions féminines sont extrêmement différentes d'un pays à l'autre ou même, au sein même d'une ville, mais dans différentes classes sociales ou dans différents groupes. Bref, il y a plusieurs femmes. Puis aussi, surtout dans d'autres pays, en France, par exemple, on parle du droit des femmes parce que j'avoue que comme ça, les gens sont quand même moins tentés de penser que c'est comme une deuxième Saint-Valentin, de nous donner des fleurs puis de célébrer la femme parce que la femme, c'est une mère, c'est une sœur. Donc, on célèbre la femme seulement par les relations.
On a tous une femme dans notre vie.
C'est ça. La femme devient valide seulement en relation avec l'homme. Elle vaut seulement la peine d'être célébrée parce elle a un lien, pas quand elle est autonome, disons, quand on la coupe des relations humaines qui l'entourent, ce qui est quand même le propre des femmes, là, d'être des gens qui prennent soin des gens puis qui ont énormément, qui vivent beaucoup sur le plan émotionnel. En tout cas, c'est là qu'on voudrait bien les cantonner parfois.
Mais en plus, c'est que j'irais peut-être pas nécessairement aussi loin que toi, mais c'est en fait que quand on célèbre la femme en allant dans les stéréotypes au niveau maquillage, au niveau justement célébrer en donnant de l'amour, on vient un peu perdre l'essence même de qu'est-ce qu'était cette journée internationale-là à la base, qui est justement la défense du droit des femmes de reconnaître les injustices que les femmes vivent au quotidien. Donc oui, chérissez les gens autour de vous, c'est très bien, c'est donner de l'amour et tout ça, comme un peu comme ça le serait pour la journée... la fête des mères ou la fête des pères. Mais finalement, cette journée-là internationale, elle est là pour rappeler qu'on vit encore dans une société où il y a des injustices par rapport au fait d'être née avec le genre féminin ou de s'associer avec le genre féminin.
Oui, c'est vrai. Peut-être qu'on fait quelque chose de similaire un peu avec la fête des enfants. À l'échelle beaucoup plus réduite, là. À la base, je pense que c'est une fête qui a été créée pour les droits des enfants, donc les enfants qui sont forcés à travailler ou, bref, qui vivent dans des mauvaises conditions, puis qui ça devient au final juste une occasion de faire des jeux gonflables, ce qui est comme différent, parce qu'évidemment, les enfants sont pas opprimés en tant qu'enfants dans le monde, quoique j'imagine que certaines personnes pourraient débattre de ça avec moi.
Quand même que oui, je te dirais pas pour la pression, mais vu qu'ils sont un peu à la merci des adultes qui sont autour d'eux, à la merci du système qui est gouverné un peu par les adultes, on pourrait dire qu'ils peuvent subir des injustices quand même.
Oui, c'est sûr.
J'aimerais vous entendre aussi en terminant ce petit segment tour de table, le mouvement MeToo. Hashtag MeToo, hashtag moi aussi, a pris énormément d'ampleur dans la dernière année. C'est là, après les révélations Weinstein, bref, je sais pas comment il le prononce. mais ensuite, il y a eu les révélations même au Québec, avec beaucoup moins d'impunité dans les cas d'agression, dans les cas de harcèlement, dans les cas de conduite inappropriée. Puis tout ça fait boule de neige, puis j'ai l'impression que on l'a vu avec les Oscars la semaine dernière, où il y a eu beaucoup de prises de parole qui demandaient plus d'égalité encore et toujours, mais j'ai l'impression que ça a été plus fort, puis j'ai l'impression que la Journée internationale du droit des femmes hier a été plus médiatisée, on en a plus parlé que dans les années précédentes, peut-être justement parce qu'il y a une espèce... de prise de conscience collective plus généralisée, ou du moins il y a plus d'attention médiatique sur ce sujet-là, puis il y a des choses qui, c'est un mouvement quand même qui apporte des changements notoires.
Ben, vas-y Marie.
Ben, en fait, je dirais que on peut avoir tout le temps ces impressions-là, mais ça serait intéressant quand même d'avoir exactement les données, parce que peut-être qu'on est plus sensible, donc même si le contenu produit reste la même quantité, on le remarque peut-être plus.
C'est possible, mais c'est possible aussi que dans les réseaux sociaux, le même contenu soit produit, mais qu'il soit plus partagé parce que les gens... en prennent plus conscience, donc c'est peut-être un effet comme d'entraînement de roue.
Cette année, j'ai écouté les Oscars, pas au complet, mais c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup plus de prises de parole à saveur politique. Disons que depuis quelques années, on parle de plus en plus de représentation aux Oscars.
Oscars so white.
Ouais, oui, c'est ça. Puis, évidemment, hashtag MeToo, ça a été parti par des actrices, ça a été parti par ça. Hollywood. Oui. Nécessairement, les Oscars vont être leur tribune de choix. C'est là qu'elles se rassemblent toutes. Mm-hmm. Et puis, c'est vraiment pour... pour elle, c'est l'occasion. C'est sûr, c'est elle qui contrôle ça. Là. Mm-hmm. À part ça, je lisais, on parlait en fait du livre de Rose McGowan. Les gens peut-être de notre génération auront peut-être écouté Charmed, puis connaîtront Paige. donc
moi je connais, peut-être pas Emilien.
Non, moi je connais pas.
T'en manques quelque chose.
C'est sur Netflix. Il est temps que tu t'y mettes.
J'ai trop de choses à écouter là en ce moment. Fugueuse, Black Mirror.
Fugueuse, ça vaut-tu la peine? Il me semble que.
Il paraît que
ça
oui.
A l'air bizarre.
Il paraît que oui. Là, tout le monde qui m'en parle me dit que oui. Là. Des gens de tous horizons me disent que c'est à voir. Là.
Mais je vais peut-être
même,
mettre ça sur ma liste.
Il y a même Tessie qui est absente ce soir de l'émission, qui dit que certaines collègues à elle, là, très engagées au niveau de la diversité.
Artistique
ouais. Au niveau des productions mais des productions québécoises, ben disait que c'était quand même une bonne série.
D'ailleurs,
alors que souvent les séries québécoises, on sait qu'elles sont pas reconnues pour faire place à beaucoup de diversité ou en faire place mais de façon très stéréotypée, donc paraît que c'est pas pire.
Donc finalement, ça serait peut-être des séries à analyser aussi du point de vue médiatique, là, du point de vue de l'analyse féministe, d'être capable de voir des films ou des téléséries avec une approche féministe, un peu comme on pourrait dire que Charm justement, ou que les trois personnages principaux sont des femmes et que les acteurs hommes finalement restent juste des personnages de soutien à quelques instants. On pourrait aussi voir une analyse féministe à travers les médias.
Assurément, je pense que ça a été un choix, là. Moi, je parlais de Charm pendant des heures et des heures, là. Mais je pense que ça a été un choix conscient, féministe, mais extrêmement libéral. D'un féministe très libéral, très blanc, très deuxième vague, en fait. Par
mais
rapport à Charm, surtout parce que c'est trois actrices blanches qui vivent une vie très bourgeoise, quand même, là. Ceux qui connaissent l'émission, ceux et celles qui connaissent l'émission savent qu'elles vivent dans une vieille maison à San Francisco. J'imagine même pas combien cette maison doit coûter. C'est une magnifique maison, vraiment de celle qu'on s'imagine quand on pense à San Francisco.
Ils ont arrêté de notre mère quand même dans l'émission. Mais
si...
d'ailleurs, ça me permet...
Donc, elles sont bourgeoises de mère, en fait, c'est encore mieux.
Mais d'ailleurs, ça me permettrait de faire un petit follow-up pour dire qu'il va y avoir un reboot de Charm.
C'est vrai.
Et que justement, il y a beaucoup plus d'actrices de la diversité, plutôt, qui vont incarner les sœurs Hallowell.
Puis, donc, à ce qui paraît, il y a même une des sœurs qui va être lesbienne. Bon, on verra bien comment ça va être traité.
Si on veut pousser la réflexion critique un peu plus loin, là, ces émissions-là où il y a des choix féministes, entre guillemets, qui sont faits, tu le disais, qui faisaient un peu deuxième vague, mais on peut aussi faire la critique de beaucoup d'émissions ou de films de grandes productions qui mettent en valeur, par exemple, des femmes, mettons Wonder Woman, okay, qui dit, toute la presse internationale disait « Wow, Hollywood est féministe, le féminisme débarque à Hollywood », alors que c'est un féminisme un peu primaire,
exact.
Et que non seulement ça, mais au final, qui profite du succès, entre guillemets, féministe, entre guillemets, auprès des femmes de ce film-là? C'est des producteurs, des gros, riches, blancs, américains qui font le cash là-dessus chez Marvel.
Je pense
là.
Que toi, tu fais la même analyse pour Black Panther, par exemple.
C'est un peu la même chose, parce que c'est des films qui deviennent des phénomènes de société, puis qui sont pas négatifs en soi. C'est une bonne chose qu'un enfant, quelque part, voit enfin des gens... qui lui ressemble à être des héros à la télévision. Donc, c'est pas négatif. C'est juste que...
C'est la première étape, finalement, d'une étape qui devrait pas être la finale.
C'est ça. C'est ça. C'est une première étape. C'est pas du tout critique.
Ouais.
C'est pas du tout... c'est pas vraiment remis en question. Puis le monde dit c'est la fin... C'est la fin du racisme aux États-Unis.
Il y a certaines personnes qui pensent qu'encore aux États-Unis, on est dans un monde post-racial. Où est-ce qu'il y a des gens qui se font descendre par la police? C'est quand même difficile à avaler. Mais j'irais pas jusqu'à comparer Black Panther avec Wonder Woman en termes de non-radical. Dans le sens quand même où est-ce que dans Wonder Woman, on est dans un contexte où est-ce que t'as une femme une Amazone, donc qui a grandi sans voir d'homme un jour dans sa vie, mais qui, quand vient le temps de choisir son uniforme de combat, va choisir de mettre des talons hauts puis une mini-jupe. Ça semble quand même un drôle de choix, tu sais, pour quelqu'un qui a vécu hors du regard des hommes. Ouais. C'est quand même curieux. Pour ce qui est de Black Panther, j'ai quand même vu, puis je pense que je suis pas du tout la seule, une analyse beaucoup plus complexe par rapport au racisme dans Black Panther. Je veux pas spoiler personne, mais le vilain est pas, disons, est multidimensionnel, puis il y a quand même une critique par rapport au racisme dans le film. Aussi, il y a beaucoup de choix qui ont été faits dans le film qui laissent croire, qui dénote d'une prise de conscience un peu plus poussée. T'sais. Il n'y a aucun Africain dans le film qui a les cheveux lissés. Ça aurait été fun que Tété soit là pour en parler parce qu'elle est d'origine haïtienne.
On en reparlera quand elle reviendra.
On en reparlera, puis quand elle aura vu le film aussi. Mais c'est quand même...
Je pense qu'elle l'a vu.
Ah, okay.
Je pense qu'elle l'a vu.
Mais c'est quand même une grosse prise de position, faire un film hollywoodien,
oui,
non seulement avec juste des personnes noires, en tout cas 90-15%, mais en plus de ça, est-ce qu'on ne fonde pas aux standards de beauté qui ont été imposés par le colonialisme blanc? Bref, c'est quand même quelque chose d'intéressant.
C'est ça, c'est un film qui est peut-être révolutionnaire sans l'être, je dirais.
Comme, ouais.
Dans le sens qu'il y a plusieurs éléments qui dénotent une prise de conscience par rapport à des enjeux, puis peut-être une plus grande liberté, puis une plus grande sensibilité. Sans être parfait. Puis bon.
Ouais. N'empêche que le film, on en parlera plus en détail, là, mais reste que c'est quand même un film qui est assez réformiste. On parlait de révolutionnaire, là, mais au final, il est réformiste. Il n'est pas tellement révolutionnaire non plus.
Ouais. D'ailleurs, pour l'anecdote, pendant le mouvement d'émancipation des Noirs américains, l'auteur de la série Black Panther avait décidé de changer le nom de sa revue pour pas s'associer au courant, au mouvement Black Panther aux États-Unis.
Donc ça s'appelait Black Guépard, on parle en même.
Black Leopard,
ouais,
Black
Leopard.
Je sais plus trop quoi.
Donc les deux noms sont nés de façon parallèle, puis ils ont pas été influencés l'un par l'autre.
En fait, c'est qu'ils se sont influencés de la même base. Ils se sont influencés d'un nom d'une école, le nom d'une équipe, d'une école sportive, qui avait marqué l'histoire quand même des droits civiques avant même que ça commence. Donc, les deux se sont inspirés de la même source.
Mais même le titre de la série?
Oui, les deux Black Panther faisaient référence au nom.
À l'équipe. Mais
à
après
l'équipe.
Ça, quand il y a eu le mouvement plus radical, mettons, avec Malcolm X et tout ça, l'auteur voulait comme se dissocier du mouvement qui posait des actions violentes, etc. Donc, a changé le nom de sa.
Mais en tout cas, le nom du personnage, c'est basé sur l'équipe sportive et le nom des Black Panther, dont faisait partie Malcolm X en tant que mouvement politique, c'est aussi inspiré de l'équipe.
OK.
En fait,
donc, voilà pour la petite histoire. Donc, on est trois, on a une heure, on s'écoute parler, c'est pas possible.
Mais justement, on parlait de représentation, mais c'est un peu de ça que Camilla, tu voulais nous parler aujourd'hui, de la représentation des femmes.
Oui, en effet. Dans le fond, j'ai vu aujourd'hui que le Devoir a lancé une nouvelle plateforme qui s'appelle Vigiparité. C'est un outil pour suivre le genre, donc femme ou homme, des candidatures des quatre principaux partis à l'Assemblée nationale. Donc, en date du 9 mars, on y lit que 44% des 14 candidatures officielles de la CAQ sont féminines, 33% des 18 candidatures...
Pardon, 14, tu dis, de la CAQ?
44% des 14 candidatures.
Oh, donc dans 14, la zone paritaire.
Oui, 14 sur 125. Donc, il y a encore, disons, des candidatures qui s'en viennent. Les dés ne sont pas jetés. 33% des 18 candidatures du Parti libéral sont des femmes. 31% des 16 candidatures du Parti québécois et 80% des 5 candidatures de Québec solidaire. donc, c'est sûr
quand
que
même.
Quand t'as 4 candidats...
C'est quand même assez préliminaire.
C'est ça. On dirait qu'on ouvre les premières boîtes de scrutin. Là, c'est très préliminaire. Donc, ces chiffres-là, ils ne veulent pas dire grand-chose. On comprendra. Là. Il faudra attendre que les partis aient annoncé leur candidature dans la grande majorité des des 125 circonscriptions pour pouvoir dégager une réelle tendance. Mais ce qu'il faut savoir par contre, c'est que ces quatre partis-là se sont engagés à divers degrés à augmenter le taux de femmes qui se présentent dans leur rang. Certains visent la zone paritaire, ça c'est 40%, entre 40 et 60% de femmes. Comme le Conseil du statut de la femme le recommande, alors que d'autres, comme Québec solidaire, s'engagent à présenter 50% de femmes ou plus aux élections. Ce qui est certain, c'est qu'au-delà de voir des visages plus représentatifs de la réalité sur les poteaux à l'automne prochain, il faudra que ces femmes soient présentées dans des comtés gagnables, parce que sinon, les belles intentions ne se transporteront pas à l'Assemblée nationale, puis je pense que c'est l'idée de base.
C'est ça, parce que présenter un candidat de la diversité ou un candidat femme dans un comté qui pourra jamais gagner, c'est des vœux pieux, là.
Exact. Puis, en plus de ça, le problème, c'est que les hommes sont majoritaires à l'Assemblée nationale. Seulement 27% des députés sont des femmes. Donc, si les députés, qui sont majoritairement des hommes, sont élus, évidemment, ils ont gagné leur siège. Donc, ça signifie qu'on a besoin que ces hommes-là, qui occupent la majorité des sièges, ne se représentent pas aux prochaines élections, donc ils laissent leur place à des femmes. Puis ça, c'est quand même quelque chose de gros à demander à quelqu'un qui fait sa carrière en politique, de laisser sa place à une femme.
On s'entend.
Donc, on peut viser les départs à la retraite, c'est ça que je comprends.
Mais là, paraît qu'il y a des vagues de départs au PQ, au PLQ, ça finit plus. Il y a juste à la CAQ que ça va bien et personne s'en va. On se demande pourquoi.
Pour le moment, personne s'en va à QS non plus, là.
Non, ouais. C'est ça, c'est
en
sûr.
En termes de pourcentage, vous êtes bons, les deux.
Il y a la presse canadienne qui a préparé un sondage en novembre passé. Je vous présente aujourd'hui quelques-uns des résultats qui semblaient assez pertinents. Ils ont été questionnés, toutes les députées.
Oui, justement, j'allais te poser la question sur ça sans avoir vu le reste de ta chronique, Camilla, c'est ça? C'était tout un dossier dans la presse plus, je pense.
Exactement. Puis donc, quand ils ont été questionnés, ils ont été demandés à toutes les députées de l'Assemblée nationale, les députées, disons, quel était leur point de vue par rapport à la parité, puis quel était leur point de vue par rapport au féminisme. Une majorité d'entre elles sont sceptiques par rapport à ça. Plus de la moitié des députés femmes estiment que la parité arrivera probablement jamais. Donc, 21% des femmes députées à l'Assemblée nationale pensent qu'il n'y aura jamais un parlement paritaire. Et 33% des femmes pense qu'il y aura un gouvernement paritaire dans 100 ans, peut-être. Donc, quand on additionne ça, là, on a 54% des femmes qui pensent ça. C'est quand même assez intense. Le portrait type de la parlementaire québécoise, à quoi ça ressemble? Aujourd'hui, elle est à 79% féministe. Donc, quand même.
C'est quand même bien.
Oui, ce qui ne veut pas dire que 79% des femmes sont féministes, mais que pour devenir députée à l'Assemblée nationale, il faut pas mal être convaincu. Puis,
il faut comprendre le terme, en fait, aussi.
Il y a peut-être un filtre qui se fait là, à ce moment-là. Puis donc, la députée moyenne à l'Assemblée considère qu'il est encore aujourd'hui plus difficile pour une femme que pour un homme de faire sa place en politique.
Ah, pour vrai?
À 67%. Et donc, moi, la seule chose que je ressors de ça, c'est que, ben pas la seule chose, mais quelque chose d'important peut-être à noter, c'est que si les femmes qui sont principalement touchées par la représentation politique des femmes le disent, on pourrait peut-être les écouter. Puis, donc voilà, puis elles souhaitent... Je m'en mêle dans mes parties. Elle souhaite que les partis fassent plus d'efforts en général pour attirer des candidatures féminines à 91%. Donc, la très grande majorité des femmes députées pensent que leur parti devrait faire plus d'efforts pour attirer des femmes en politique. Mais elles sont cependant plus pour une zone paritaire, donc 40% de femmes en politique. Je répète qu'en ce moment, on est à 27% à l'Assemblée nationale.
Oui, ça serait déjà une nette amélioration si on arrivait à 40%.
Oui. Plutôt qu'avoir des quotas, parce que les femmes à l'Assemblée nationale considèrent que avec des quotas, elles deviendraient un peu comme des femmes de service, les femmes de service, qu'elles auraient peur d'être moins considérées pour leur talent, leur capacité, plutôt que seulement d'être vues comme, comme n'importe quelle femme, comme n'importe quelle représentante du peuple.
Ouais, ben c'est un bon débat, ça. D'ailleurs, les quotas, pas quotas, zone paritaire, pas zone paritaire, vous en pensez quoi?
J'ai d'ailleurs tenu un débat là-dessus à ma fin de bac. Moi, comme on en parlait, je pense un peu hors d'onde tantôt, c'est qu'il faut pas nécessairement... Moi, je pense que les quotas, c'est un moyen pour atteindre quelque chose. Ça devrait pas être justement l'étape finale, comme on discutait, je crois, tantôt. Je crois que c'est ça qu'on avait convenu.
Ouais, c'est ça.
Mais que c'est certain, je pense, que à quelque part, c'est un peu le même débat par rapport à la discrimination positive quand on parle de la représentation des minorités,
exact,
entre autres, dans la fonction publique. C'est qu'il y aura toujours des gens qui vont finir par dire « Ah, mais j'ai le prix pour la compétence et non parce que je suis telle personne. » Mais en fait, le principe de base de la discrimination positive, c'est qu'à compétence égale, on privilégie une personne ou un individu, en fait, plutôt issu d'un groupe qui peut être marginalisé ou qui est discriminé de façon un peu plus systémique. Donc, si on comprenait bien les termes, je pense que ça pourrait peut-être plus facilement dédramatiser l'idée de voir des quotas, en fait.
C'est ça, parce que est-ce qu'on peut bien croire qu'il y a environ 65 femmes sur peut-être 4 millions au Québec qui sont capables d'être des députées? Tu sais, si on le prend sous cet angle-là, là, on se rend compte que c'est pas qu'on va prendre quelqu'un de moins compétent. Les gens compétents, il y en a vraiment beaucoup, mais on se rend compte que les femmes particulièrement doivent être très motivées pour aller en politique. Je vais en parler un peu plus tard dans ma chronique.
Surtout que c'est un milieu qui est plus qui est peut-être hostile,
oui,
à la venue des femmes pour toutes sortes de raisons, au niveau conciliation travail-famille, au niveau de la façon dont la politique est faite. Donc, c'est ça. Mais
c'est justement ça l'intérêt, c'est que peut-être que, outre juste l'intérêt d'essayer d'aller recruter d'autres personnes, c'est aussi de voir comment est-ce qu'on pourrait rendre nos institutions un petit peu plus attrayantes aussi pour les personnes de qualité. Parce que quand on compare, par exemple, avec la politique municipale, on voit que la représentation des femmes est beaucoup plus importante, même si ça reste encore un problème parce qu'ils restent dans des postes un peu moins de pouvoir. Mais on peut se demander pourquoi les femmes se sentent plus attirées par la politique de proximité par rapport à de la politique provinciale ou fédérale. Puis c'est peut-être aussi en fonction des moyens qui sont mis en place pour justement faciliter la conciliation famille et travail l'année dernière. D'ailleurs, la Ville de Montréal avait approuvé des recommandations par rapport à la conciliation famille-travail, donc peut-être qu'il y aurait des idées qui pourraient se reproduire aussi à l'échelle provinciale, qui pourraient aider à avoir plus de candidates.
L'idée même de la politique, comme on l'imagine, qui nous vient tout droit de l'Angleterre, est somme toute assez masculine dans toute sa confrontation.
Oui.
L'idée que... là, je veux pas dire que les femmes sont essentiellement moins dans la confrontation que les hommes, mais qu'on est plutôt socialisé de façon totalement différente, puis que cette façon-là d'approcher le monde comme un combat, comme une guerre, là, d'un côté ceux qui sont pour, de l'autre côté ceux qui sont contre, de mettre de côté les compromis, ou même la façon, le mode de scrutin qui mise beaucoup moins sur le compromis, puis beaucoup plus sur cette idée qu'on se fait d'un leader charismatique qui va être capable de nous mener à la guerre, mener au combat, puis qui va être capable d'accomplir de vrais changements. Au Québec, laissez-moi vous dire que ça fait quelques années qu'on n'en voit pas de leader charismatique, qui a vraiment une vision et un projet de société.
Puis non seulement socialiser de façon différente, mais aussi vu de façon différente dans la société, dans la façon dont elles sont jugées, surtout par le public, d'une façon beaucoup plus intransigeante. Une femme qui va s'habiller d'une certaine façon va être énormément critiquée. Une femme qui va hausser un peu le ton à l'Assemblée nationale va être traitée d'hystérique.
Exactement.
C'est
puis on avait
un deux poids deux mesures à tous les niveaux.
Une recherche qui avait été faite sur les bijoux de Pauline Marois. On avait beaucoup on en avait voulu à Pauline Marois pour les bijoux puis pour l'ostentation, si je peux me permettre ce jeu de mots, de son apparence, parce qu'on la traitait de bourgeoise, mais alors que c'était vrai, là, méprenez-vous pas sur qu'est-ce que je dis, mais elle n'était pas plus que François Legault ou Philippe Couillard, on s'entend. on était beaucoup plus sévère envers Pauline Marois qu'on l'était envers les autres chefs.
Oui, puis on avait fait une analyse sur les bijoux qu'ils portaient, puis c'était des bijoux très, très sobres. C'était pas dans les fioritures. Oui, Madame Marois était très, très riche, puis habitait dans des grandes demeures, tout ça.
Mm-hmm.
Mais on la critiquait sur son habillement, parce qu'elle portait des boucles d'oreilles, parce qu'elle portait des colliers, puis on disait...
On dirait, ben, de toute manière, on va les... Peu importe comment elles s'habillent, les femmes, on dirait qu'on va les critiquer tout de même.
Ben oui, c'est ça. On l'a vu avec Françoise David,
puis Manon Mancé aussi, là, que peu importe si on s'habille bien, si on s'habille mal, si on s'habille chic ou pas du tout.
Si on répond à certains critères, certains standards de beauté ou pas.
Exact. On va trouver le moyen de les...
on s'entend que c'est tellement plus facile de juste avoir un complet cravate et une chemise.
Ben oui, d'ailleurs, je l'ai sûrement déjà mentionné à l'émission, mais cette expérience d'un présentateur américain à la télévision, états-unien, pardon, qui présentait à la télé avec une femme une émission de nouvelles, puis était tanné que sa compatriote femme était toujours victime de critiques au niveau de comment elle s'habillait. Donc, il a décidé de porter le même complet toute l'année, les 365 soirs où il faisait les nouvelles.
Ah ouais.
Et personne n'a pas reçu un seul message de critique sur son habit vestimentaire. À la fin, il fait un montage, puis il a dit « Vous vous rendez compte à quel point ce que vous faites, ça n'a pas de bon sens? Parce que moi, j'ai pas changé mon habillement une seule fois depuis 365 jours. » Bon, peut-être qu'il changeait la chemise, là, mais il gardait le même complet, la même couleur.
C'est ça, ouais.
La même cravate, puis... 365 jours, personne n'a remarqué. Une femme porte... Je pense que ça avait découlé... La goutte qui avait fait déborder le vase, c'était que sa co-animatrice avait porté la même robe deux fois dans le même mois et avait subi un backlash sur les réseaux sociaux. Bref.
Mais je sais pas si les gens réalisent qu'en plus qu'ils pensent que c'est pas très beau de porter souvent les mêmes vêtements, à quel point c'est classiste d'avoir ce genre de réflexion-là, parce que tu supposes que nécessairement, oui, pour avoir de l'allure, il faut que tu aies assez de vêtements dans ta garde-robe pour pouvoir changer de vêtements puis jamais remettre les mêmes vêtements. Là.
Je sais pas si c'était dans un seul mois ou en une seule semaine, là, mais bref, c'était complètement exagéré dans tous les cas.
Ouais, mais dans tous les cas, on écoute les nouvelles pour le contenu. Je veux dire, le contenant devrait juste servir à ne pas créer de la distraction sur le contenu.
Ouais.
Mais Camilla, si on revient un petit peu à ta chronique,
allons-y.
Tu parlais du devoir qui parlait dans le fait qu'il réalisait qu'on parle. En fait, le devoir parlait d'une zone paritaire.
Ouais.
Puis ça, c'est déjà quelque chose en soi qu'il en parle.
Ouais, ben exact. Ça semble assez, disons, consensuel dans la société québécoise que la zone paritaire, au moins, serait quelque chose à atteindre. Puis ça, en soi, c'est quelque chose d'intéressant. Comme on le disait tout à l'heure, les partis politiques pensent pas que les moyens à prendre pour atteindre cette parité-là soient les mêmes. Là. Ils ont quand même beaucoup de divergences. Encore là... T'sais, si on s'entend que la majorité des partis sont d'accord pour dire qu'il faut agir, c'est quand même généreux parce que, t'sais, quand on dit qu'il faut prendre des mesures pour atteindre la parité, il y en a qui se disent plutôt qu'ils doivent viser une certaine parité. Bref, il y a certains partis qui parlent, qui disent pas grand-chose, puis qu'ils en ont vraiment rien à faire. C'est ce qu'on comprend. Mais on peut se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour les femmes d'aller en politique et pourquoi est-ce qu'il faut encourager les femmes? Pourquoi est-ce qu'on peut pas juste laisser les choses aller puis qu'on parle de quotas ou d'encouragement? Pourquoi est-ce qu'on peut pas juste attendre que les femmes aillent par elles-mêmes en politique? J'ai été lire des pistes de solutions qui ont été avancées par l'UNICEF là-dessus, dans un rapport là, que je pourrais publier sur Facebook, mais on parle entre autres du double fardeau des responsabilités publiques et privées des femmes en politique partisane. Donc, la charge de travail des femmes est généralement beaucoup plus lourde que celle des hommes parce que les premières ont moins de temps et d'énergie à consacrer à la vie politique parce que déjà, la charge des enfants, de la maison retombe beaucoup sur elles, en grande majorité.
Oui, et non seulement la charge des tâches, mais la charge mentale aussi.
Exact.
Je ne sais pas si vous avez vu ça passer. Pour ceux qui ne savent pas, Est-ce que tu pourrais nous dire deux mots sur ce qu'est la charge mentale?
La charge mentale, c'est cette espèce de pression. Moi, j'appelle comme un stress qui est toujours dans le coin de la tête, de devoir s'occuper de tout pour que ça fonctionne, tu sais, de penser à tout. Souvent, c'est les mères qui font ça, de dire « Ah, est-ce que t'as appelé ton frère? Ah, est-ce que t'as organisé le souper de famille cette année? » «
Est-ce que t'as fait la vaisselle? »
« Est-ce que t'as fait la vaisselle? » Est-ce
ben,
que...
non, je l'ai pas fait, mais si tu me l'avais demandé, je l'aurais fait.
C'est ça, moi, je dirais que je ferais une comparaison entre le gestionnaire et l'exécutant. Dans le sens que le gestionnaire, un peu dans du couple qui a la charge mentale,
ouais,
a un peu la responsabilité de voir si les tâches ont été faites ou n'ont pas été faites et va pallier, en fait, va combler les trous qui n'ont pas été faits par les exécutants.
Exact.
Oui, donc, même si les tâches sont séparées 50-50 dans un profil idéal, là, ben parfois, l'exécution de ces 50% de tâches-là par l'autre partenaire, souvent l'homme, relève d'une organisation par l'autre partenaire.
Donc, exactement. C'est... Donc, si, on, par exemple, on va dire... habituellement, ça va être la femme donc, qui va dire « Peux-tu aller acheter une pinte de lait? » Donc, la tâche, ça va être « Aller acheter une pinte de lait. » Une fois arrivé à l'épicerie, la personne va... L'homme, souvent, va juste prendre la pinte de lait puis va revenir à la maison. La femme, si elle y avait été, aurait pensé que c'était la fête des enfants en fin de semaine. Elle aurait acheté des choses pour faire un gâteau. Elle aurait pensé que les beaux-parents venaient aussi le lendemain souper. Donc, elle aurait pensé à prendre des choses pour cette occasion-là. Puis, finalement, aurait fait une épicerie pour les choses réellement dont toute la maison a besoin parce qu'elle a tout ça en tête constamment, cette espèce d'orbite de tâches puis de responsabilités pour que la vie familiale puisse continuer à tourner. Donc, c'est pas seulement le strict minimum, mais c'est tout ce que ça prend pour avoir une vie familiale complète. Là. Puis comme les hommes et les femmes en profitent, surtout, ben, comme tout le monde en profite, là, tous les membres de la famille profitent de cet état-là de bonne organisation familiale générale.
On pourrait en parler longtemps, mais si tu voulais conclure ta chronique, Camilla, pour laisser le temps à Marie de parler aussi.
Effectivement, donc, les femmes. Donc, aux États-Unis, il apparaît qu'à mesure que les femmes voient diminuer leurs responsabilités domestiques et familiales, elles cherchent davantage à briguer des mandats exécutifs. Donc, c'est pas très surprenant, mais plus les femmes ont le temps, plus elles vont s'impliquer en politique.
Incroyable.
Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de groupes un peu plus radicaux, là, ou disons plus marginaux, où est-ce que quand on a des perspectives féministes, là, on va souvent proposer des garderies pour encourager la participation des femmes. On va dire qu'il va y avoir une garderie, puis de cette façon-là, les femmes peuvent venir aux activités, même si elles doivent s'occuper des enfants.
Mais ça se fait de plus en plus au niveau politique, justement, de proposer des halles garderies dans des
c'est
événements.
Ça. Il y en a à l'UQAM, d'ailleurs, une garderie, c'est pour ça aussi.
Ben oui, pour encourager la participation des femmes à la vie éducative. Ben, en fait.
Puis, disons,
qu'elle s'éduque. C'est mal dit, là,
mais en fait, c'est seulement pour faire...
qu'elle se scolarise, etc.
Mais en fait, parce que c'était une des recommandations du Conseil des Montréalais dans la vie sur la conciliation travail que j'avais porté le lancement. Justement, les haltes de garderie sont reconnues, en fait, pour donner la possibilité aux gens de pouvoir se déplacer, même s'ils ont la charge des enfants. Il y a plusieurs principes de haltes de garderie. Dans certains arrondissements, ça va se mettre un espace. Il va quand même falloir une certaine gestion des enfants. Tandis qu'à d'autres endroits, il va y avoir des éducatrices. Donc là, à ce moment-là, on peut vraiment parler
mais
d'une conciliation
maximale. C'est pour ça que les CPE sont tellement reconnus comme une avancée féministe aussi dans la société. Bref, puis il y a le deuxième point que je voulais ramener, c'est la culture d'exclusion. Dans beaucoup de pays, les réseaux politiques et les réseaux financiers sont contrôlés par des hommes. Donc, les pratiques culturelles qui servent à entretenir et à consolider les liens de solidarité masculine au sein de ces réseaux-là, ben, par exemple, la consommation d'alcool, le tabac ou la pratique du golf, sont des étapes sur le chemin qui mènent à un mandat électif. Donc, il faut avoir ce réseau-là pour pouvoir avoir au final un mandat, donc réussir en politique. C'est vraiment une histoire de réseau au final. Puis, il y a une étude qui a été faite en Thaïlande qui a démontré que les hommes prédominent généralement dans les comités de recrutement et ont tendance à mettre hors jeu les femmes candidates. Ce, afin de conserver une structure qui leur est familière, mais aussi parce qu'ils ont plus de chances de connaître personnellement les candidats de sexe masculin. Donc, je dirais que ça peut même aller dans le subconscient, mais dire qu'on veut que les choses demeurent telles qu'elles le sont, puisque le statu quo nous bénéficie. en attendant la parité homme-femme, il semblerait qu'on est encore bien loin d'un premier élu qui ne soit ni homme ni femme et qui ne s'identifie pas à ce cadre binaire. Ça m'a sauté aux yeux en regardant tout à l'heure le dessin dans Le Devoir, là, où est-ce qu'on voit 125 petits carrés gris, 4 carrés remplis pour les femmes, 6 carrés remplis pour les hommes et aucun carré pour les autres.
Intéressante réflexion. Est-ce qu'on écoute une petite chanson?
Ou allons-y.
On n'a pas le temps? OK, on va écouter Palm Bay de Bad Nylon sur l'album T'es unique.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de votre vol PCG Airline. Ladies and gentlemen, welcome aboard to your PCG Airlines flight. Damas y caballeros, bienvenidos en este viaje de Aero PCG. Nous vous demandons votre attention toute particulière alors que nous entamons notre envolée en direction de Palm Bay. Nous vous prions de bien profiter de notre bonne volonté à vous servir dans le confort et la sécurité les plus absolus. Et souviens-toi que bébé, t'es unique. Disfruta de sus pasajes con los miembros de Babylon. Enjoy your... Palm Bay, Palm Bay, Palm Bay.
Les biggest mecs et sans les oula. Almost AA, chili more AA. Qu'est-ce que c'est bébé? La crème, la soirée. Pombé, pombé. Pas mettre laisser tomber, pas de pombé. On est pommé sous les pommés all day. Crocodile Dundee, m'a tapé si je suis en danger. Si le bel est de décoller ou si les rêves ont ma viré. En traverser les steaks dans la tour Eiffel. Je l'imaginais plus grand, c'est déjà mieux que les films. En se marie un tième et ainsi sous l'effet de ce festin. Nos excès jusqu'à en oublier de chère. On let's pretend for a night. Let's take your rêve à Warren High. La limite absurde. L'amour au milligramme. On est venu en limousine. Je pars partir en minivan. Mais le first time all in, je calcule ma fin. Switch une bitch, le chick sort de ma cible sur So Fly High. M'envoler jusqu'à Saturne. Blackjack, Benez à l'oreille. Monsieur, c'est rapide tout BVIP, c'est une habitude. Je t'assure, plus en avance que le futur. J'assume, ça t'assure qu'on m'appelle crépuscule. Certitude, j'ai allu. Mon habit, Philippe, formant son aluminium. Illumination, c'est une force comme la lingerie. Shine bright like a diamond. Mon afro vole le show d'ouvre au micro. On me nomme. Macron check, on te fire. J'ai les brûles. Mon érotisme érotique, exotique, unique et perturbe. C'est pur. Rougir, incrédule, je te sub, chante dans les pommes, la lampe sonne et je me consume.
Donc, vous écoutez Palm B, mais B-A-E, de Bad Nylon, mais B-A-D, Bad Nylon, Nylon. En tout cas, y a, ce que j'essaie de dire, là, c'est qu'il y avait deux jeux de mots, un dans le nom de l'artiste, puis un dans le nom de la chanson. Un groupe de femmes québécoises, très intéressant. En 8 minutes, 27 secondes plus tard dans le maritime, Marie.
Yes. Dans le fond, ma chronique va bien illustrer un des critiques qu'on donne souvent aux journalistes, c'est qu'on a très peu de temps finalement pour faire des chroniques, faire des textes. Donc, ça sera un peu ça. Moi, aujourd'hui, en fait, j'allais
ça
pas...
5 minutes 30.
J'allais pas vous parler d'une grande analyse comme le fait Camilla, puis je trouve ça tout le temps enrichissant de pouvoir entendre des chiffres avec une belle recherche. J'allais plus vous parler un peu du point de vue de mes réflexions des dernières années en tant qu'étudiante en journaliste que j'étais.
Tu et vas aussi... nous donner 5-6 petits conseils féministes pour les journalistes et pour les éditeurs.
Ouais, merci de me mettre en contexte, mais en effet, qu'est-ce que j'allais dire, c'est que j'allais vous donner des conseils pour une approche peut-être un peu plus féministe. basé un peu sur mon expérience en tant que nouvelle journaliste, parcours en, comme étudiante en journalisme, mais aussi un parcours en analyse critique de l'information. Donc, j'aime à dire que j'ai un petit peu une pensée, deux personnes en moi qui s'assinent un peu à travers ça. Donc, je veux juste préciser que c'est pas pour faire une critique directement du monde des médias, parce qu'on comprend qu'on a tous des défis au niveau institutionnel, mais vraiment plus pour dire dans mon monde parfait, à quoi ressemblerait un peu plus le monde des médias.
À quoi ressemble ton monde parfait, Marie?
En fait, le premier conseil que je dirais, c'est que c'est de développer l'esprit critique quand on fait du journalisme. Donc, le premier conseil, ça serait en fait d'avoir une analyse différenciée selon les sexes, avec une perspective intersectionnelle. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une démarche de réflexion, en fait, qu'on a souvent à travers des études, surtout par rapport à la perspective féministe, qui est d'essayer de documenter des phénomènes en prenant en compte la démographie, par exemple, des participantes à une étude, ou les perspectives qu'on peut avoir, de vraiment essayer de voir s'il y a des relations différentes selon le fait qu'on soit un homme ou une femme. Par exemple, dans l'espace public, est-ce qu'on a une relation à l'espace public différente si on est un homme ou une femme, ou encore si on vient d'une minorité visible, minorité culturelle, si on a un handicap, selon notre âge, selon notre classe. Et en fait, c'est comment on pourrait essayer de l'appliquer au journalisme, c'est de dire, d'avoir le questionnement à la base de est-ce que les réactions qu'on a par rapport à un tel ou tel projet, par rapport à telle ou telle nouvelle, pourraient être différentes selon la démographie dont sont issues les personnes, est-ce selon notre classe.
Est-ce que tu aurais un exemple à nous proposer, ou est-ce que tu as vu que les gens réagissaient différemment?
En fait, l'exemple que je donnerais directement par rapport à l'espace public, c'est juste par rapport au fait que, par exemple, dans une ruelle sombre, on va pouvoir avoir beaucoup plus d'insécurité par rapport à l'espace public des femmes, entre autres, de se faire attaquer. Ça peut avoir par rapport à ça, je disais. Par rapport à l'espace public, on ne vit pas le fait d'être dans l'espace pareil si on a un problème au niveau d'un handicap moteur.
Non, en effet.
Donc, c'est ce genre de choses-là dans laquelle il y aurait le questionnement. Par rapport, par exemple, à la relation qu'on peut avoir avec le service policier, peut ne pas être le même selon notre classe sociale, selon notre minorité.
C'est clair.
Donc, un peu dans cette perspective-là, de juste avoir les questionnements qui sont sous-jacents. Parce qu'on sait que le monde des médias, on n'a pas toujours le temps de pouvoir faire des grandes recherches approfondies, mais essayer de se poser le questionnement nous-mêmes à la base en justement réfléchissant. Et ça m'amène un peu à la deuxième étape, le deuxième conseil, qui est de se questionner soi même sur ses sources. Par exemple, qu'est-ce que j'essaie de faire, que j'ai eu comme réflexion dans un reportage, c'est que je me suis rendu compte que j'avais interviewé seulement deux hommes pour mon reportage. Je me suis dit, est-ce que ça pourrait être intéressant d'avoir une femme? En fait, juste de se questionner puis de pouvoir voir si globalement, dans l'ensemble de nos reportages qu'on fait, est-ce qu'il y a une tendance à voir que finalement on questionne plus des hommes, des femmes, des personnes blanches. Donc c'est un peu se remettre soi-même en question. Et en fait aussi, je dirais que c'est parce que souvent on a une relation qui est différente à nos sources selon le côté immédiat de la chose. Ou encore, comme disait Camilla, c'est la socialisation qu'on peut avoir en tant que femme. L'exemple le plus concret que je peux imaginer, c'est que je faisais un reportage sur la musique autochtone et notre contact était le chef d'un groupe autochtone de musique et il nous avait gracieusement donné plein d'entrevues, plein de commentaires et tout. Et là, on était allé dans son groupe et il était composé de 6 femmes et de lui. Et quand on posait des questions, ils étaient tous assis en groupe. C'est nécessairement lui en tant que leader du groupe qui prenait la parole. Et quand on posait des questions, les femmes n'avaient pas nécessairement tendance à vouloir répondre. C'est quand on le posait vraiment en grand groupe. Et qu'est-ce que je proposais à ma collègue à l'époque après? C'est d'aller poser des questions de façon individuelle ou en paire de deux à chacune aux femmes qui étaient présentes. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu qu'il y avait beaucoup plus de verve et qui justement voulait plus s'exprimer. Donc c'est un peu l'idée de donner un micro directement à des personnes qui n'auraient pas nécessairement tendance à prendre la parole.
Mm-hmm. Mais de la même façon que on veut pousser que les, tu sais, on pousse la participation des femmes en politique parce que on sait que si on attend que ça se fasse tout seul, ben on va attendre un sacré moment là.
Oui, puis c'est aussi le principe de voix marginalisée. C'est un peu notre vision du journalisme. Est-ce que on est un journaliste un peu plus objectif ou est-ce que on peut voir justement que le journalisme peut avoir un pouvoir? C'est le quatrième pouvoir, donc donner un peu une voix aux personnes marginalisées. Ce qui m'amène un peu justement à un autre conseil, genre directement à un autre que j'avais, qui est de donner la parole aux gens. On voit qu'un peu à l'époque où que on a beaucoup de chroniqueurs, les éditeurs ont la possibilité de donner la parole à des personnes personne, que ce soit à travers le travail d'un journaliste qui va faire une entrevue ou un portrait, par exemple, ou encore par le fait de donner une chronique, de donner une lettre d'opinion accessible. Par exemple, dans la presse, tout récemment, on avait une chronique d'opinion par Mélissa Molène-Dupuis, qui est une femme autochtone qui était une des co-créatives du mouvement I Don't Know More. Donc, qui de mieux pour parler de cette réalité-là qu'une personne qui est directement touchée? Et là, à ce moment-là, je pense que à travers l'ensemble des chroniques, l'ensemble des articles, ça peut permettre de diversifier un peu les voix. Et en plus, ça peut même économiser de l'argent aux éditeurs de journaux si on le fait gratuitement. Donc, c'est un double avantage. Donc, c'est un peu cette idée-là, donc de diversification des voix. Et là, pour les dernières minutes qu'on a pour pouvoir parler des autres sujets, c'est quand même quelque chose qui sont assez en vrac, donc c'est un peu les plus faciles à expliquer, c'est trois ou quatre, en fait, le choix des mots.
Oui, après ça, pas trop, Marie, je pense qu'on peut se permettre de dépasser un petit peu.
On a manqué de temps, Marie.
Oui, c'est vrai. Donc, j'ai essayé de ralentir le débit.
Respire.
Donc, je dirais que c'est aussi par rapport au choix des mots. Donc, il y a des mots à la base qui sont diffamatoires, d'autres qui ne le sont pas. Donc, c'est un peu savoir lesquels le sont, mais aussi par rapport à comment on catégorise les choses. Par exemple, quand on parle des sports, pourquoi est-ce qu'on parle des sports en général comme étant le sport masculin, puis qu'on va toujours préciser quand c'est du sport féminin? Donc, women's sports, par exemple.
Est-ce que c'est pas nouveau que les hommes sont considérés comme l'être humain de base, puis les femmes sont l'autre?
Oui, mais peut-être que
Adam
justement changer les mots,
c'est connu.
Ouais. Ben oui, c'est comme quand on dit l'histoire l'homme, tu sais quand on parle de l'homme
oui,
au lieu de
avec un grand H
au lieu de l'humanité là, ben ouais. C'est la même chose, on change les mots, ça a un impact au final.
Ouais. Donc finalement peut-être que ça peut avoir un impact, c'est tout un peu le principe du langage épicène qu'on voit se propager un peu, l'idée de féminiser un peu ces discours. On sait pas si vraiment féminiser va avoir un impact direct sur la vie concrète des femmes, mais ça peut avoir un apport symbolique additionnel sur la représentativité qu'on veut